France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je ne vous apprendrai pas que cette saison, l'Opéra de Paris fête ses 350 ans. Plusieurs livres y ont déjà fait allusion et une exposition organisée à la bibliothèque du Palais Garnier en retraçait les débuts au printemps dernier. Avec le concours de la Bibliothèque nationale de France, l'Opéra de Paris poursuit l'exploration de son histoire et propose depuis le 24 octobre et jusqu'au 2 février, à nouveau à la bibliothèque-musée du Palais Garnier, une exposition sur le grand opéra. J'ai le plaisir de recevoir à cette occasion Romain Fest, co-commissaire de cette exposition, qui vient nous en parler et présenter le catalogue. Le grand opéra 1828-1867, le spectacle de l'histoire, coédité par l'Opéra National de Paris, la Bibliothèque Nationale de France et la Réunion des Musées Nationaux.
Cortège qui s'avance, j'entends déjà les accents solennels. Chez Lorenzo, que la prudence vient rejoindre mon père et nous suivre aux hôtels.
John Haller, Alain Munier, l'ensemble choral Jean Laforge, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, tous sous la direction de Thomas Fulton. C'était un extrait du premier acte de la muette de Portici de Daniel François Esprit Aubert. Bonjour Romain Fest.
Bonjour.
Vous êtes un des deux commissaires donc de cette exposition qui se tient depuis le 24 octobre à la bibliothèque musée de l'Opéra de Paris, donc au Palais Garnier, donc consacré au grand opéra. Et deux dates encadrent en fait cette histoire du grand opéra, 1828-1867. La muette de Portici donc date de 1828. Pourquoi est-ce que l'histoire de la musique, les historiens, les musicologues considèrent cet opéra dont on vient d'entendre un extrait comme le début du grand opéra?
Disons, il faut toujours des repères et ouais. La muette de Portici en forme un qui est assez clair, même si Aubert ne s'est pas levé un matin en disant aujourd'hui j'invente le grand opéra. Mais disons que c'est un des premiers ouvrages qui présente presque toutes les caractéristiques associées à l'opéra romantique français, donc une structure en cinq actes. Ouais. un ballet, enfin même dans le cas de la muette, plusieurs ballets, ouais. Une scénographie très imposante, ouais. Des effets spectaculaires.
Ouais. Est-ce qu'il faut qu'il y ait aussi un sujet historique ?
Le sujet historique, même si on trouvera toujours quelques exemples,
oui, quelques exceptions, ouais, ouais.
Un peu déviants par, ouais. par rapport à une norme, ouais. qui en fait qui n'a jamais été écrite,
ouais, ouais.
qui s'est,
oui, ça n'a jamais été codifié le genre grand opéra, ouais.
imposé ouais. au fil du temps.
Comme vous l'avez dit, c'est pas du jour au lendemain que le genre s'est créé et a été installé. D'où vient-il ce grand opéra ? C'est une spécialité française déjà, il faut le préciser.
Alors,
il y a
eu des tentatives un peu dans ce genre en France et aussi en Allemagne, ouais. par exemple Günther von Schwarzburg de Holzbauer qui était donc à la fin du 18e siècle, déjà un opéra aussi sur un sujet historique et avec des implications un peu politiques, ouais. Aussi. Il y a eu en France là, qui a été donné récemment à Versailles, Gretry, Richard Cœur de Lion.
Oui.
Après, il y a eu les expériences de notamment Cherubini avec Médée, Spontini avec la Vestale, qui sont pas exactement des grands opéras parce que soit ils sont pas en cinq actes, soit oui. la place du ballet est plus restreinte que ce oui. qu'elle va.
Mais le ton, comme le caractère, il était, c'est ça.
Le ton, la mise, les moyens mis en œuvre commencent oui. à.
Oui.
ressembler à ce qui va être oui. le grand opéra français du 19e siècle.
Est-ce que Romain Fest, ce grand opéra donc, qui apparaît donc, aux alentours des années 1828 donc, en France, est-ce qu'il est le fruit d'une élaboration, vous avez cité des compositeurs italiens qui étaient établis en France, mais est-ce qu'il a un rapport avec le climat consécutif à la fin de l'Empire ? Est-ce qu'il y a des raisons historiques qui font que le grand opéra s'est développé dans ces années 1800, à la fin des années 1820 en France.
Oui, mais peut-être même après la muette de Portici, en fait, ouais. plutôt à partir de Robert le Diable,
ouais.
À 1831. En fait, Louis-Philippe cherchait un peu à faire oublier aux Français les humiliations du traité de Vienne, des défaites de Waterloo, des ouais. défaites des armées napoléoniennes,
ouais.
et redonner à la France une certaine fierté. Donc, si vous voulez, le grand opéra qui s'appuyait sur des sujets historiques non plus lointains comme l'Antiquité, et maintenant, qui s'attachait plus aux grands faits d'armes, aux actes du Moyen-Âge, de la Renaissance, mmh. voire plus récent, puisqu'avec Aubert, avec Gustave III, c'est vraiment l'assassinat du roi de Suède.
De Suède, oui, oui.
Donc, les faits avaient à peine 30 ans. Mais, on voulait qu'on reparle des grandes heures de l'histoire de la France, de l'Europe.
Et, ouais, pour lui redonner du lustre.
Pour lui redonner un certain lustre. Et je pense, ça, c'est pas le résultat d'un calcul.
D'accord. C'est pas une ambition politique non plus.
Je pense que c'est une opportunité, une concomitance d'événements qui ont fait que ça a marché à ce moment-là.
Et l'immortalité, et la puissance.
Un extrait de Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer, extrait du troisième acte très exactement, avec Brian Himmel dans le rôle titre et l'orchestre philharmonique Giuseppe Verdi de Salerne, dirigé par Daniel Oren. Romain Fest, on va parler de Robert le Diable, un opéra emblématique du genre pour le grand opéra. Juste une petite précision quant à ce catalogue qui réunit, vous compris, 18 auteurs quand même, ce qui est assez impressionnant pour un ouvrage collectif de cette envergure. Pourquoi ? Parce que vous avez voulu vraiment balayer le maximum de champs possible.
Alors le catalogue, si vous voulez, suit le parcours de l'exposition.
Ouais.
Sans le doublonner, il s'agissait de développer ce qui est dit dans l'exposition et d'essayer de couvrir un peu tous les aspects du grand opéra.
Oui, parce qu'à la fin, il y a une liste des œuvres exposées, mais qui est présentée de façon assez succincte. Ce n'est pas un catalogue traditionnel, j'ai envie de dire.
Ce n'est pas un catalogue traditionnel.
Voilà.
Ce sont des développements qui ont été écrits. On a fait appel quand même
à des
spécialistes,
ouais,
de différentes générations de jeunes chercheurs, mais qui ont déjà publié, qui sont reconnus dans leur domaine, et de spécialistes qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'articles et de publications diverses à leur actif.
Oui, exactement. Oui. Alors, ce Robert le Diable, c'est 1831, je crois.
1831.
Donc de Meyerbeer, donc à Paris, parce qu'en fait, tout se passe à l'Opéra de Paris.
Tout se passe à l'Opéra de Paris à ce moment-là.
À ce moment-là, oui. Donc, on imagine sujet imposant, grand orchestre, mise en scène spectaculaire. En fait, c'était le grand spectacle de l'époque. Comme aujourd'hui, on va au cinéma voir des Ghostbusters.
On a associé Wagner à l'œuvre d'art totale, mais ouais, c'est déjà une forme d'œuvre d'art totale dont la réussite dépend. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient difficile souvent de représenter ce genre d'ouvrage, parce qu'il faut à la fois un grand spectacle visuel, des chanteurs de premier plan, parce que c'est d'une difficulté technique très importante, oui, un corps de ballet, donc des moyens considérables de
l'argent.
C'est
vraiment le grand spectacle dans tous les sens du terme. Là.
Absolument. Et bon, les metteurs en scène d'aujourd'hui aussi sont toujours enclin à faire quelque chose, enfin je dirais grossièrement du Franco Zeffirelli, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut faire pour que ça marche.
Ben voilà, c'est ce que j'allais vous demander, parce que il y a un article dans le catalogue qui justement envisage la postérité et comment aujourd'hui on peut envisager le grand opéra. On comprend très bien que ce style n'est pas vraiment dans l'air du temps, ni dans la politique artistique et des directeurs de théâtre et dans l'esthétique des metteurs en scène d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire, alors qu'on a l'impression qu'il y a un regain d'intérêt pour ce répertoire, notre époque n'est plus en phase avec le grand opéra si les metteurs en scène refusent le côté spectaculaire des œuvres? Comment est-ce qu'on peut faire, Romain Fest?
J'ai pas de réponse, si vous voulez, à votre question. Pour moi, je pense qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout.
C'est
je
ça,
sais
voilà.
pas si un directeur de théâtre osera le faire. Il y a quand même eu quelques succès publics, notamment à Londres, à Berlin aussi, et production. Mais est-ce qu'un jour un metteur en scène sera prêt à jouer le jeu et à affronter aussi la critique, parce
que c'est ça. Et à dire, bon, bah, très bien, il y aura un gros décor, il y aura beaucoup de monde sur scène, c'est du grand spectacle, c'est comme ça. Alors, Robert le Diable, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi est-ce que c'est un titre qui a marqué l'histoire et les esprits en 1831, Romain Fest?
Ce qui a surtout marqué les esprits, en fait, c'est le fameux ballet qui est la scène des nonnes, qui a été chorégraphié par Philippe Taglioni, qui était le père de Marie Taglioni, qui est devenue l'une des plus célèbres ballerine du 19e siècle, mm-hmm. qui a fini sa carrière en tant que directrice de l'école de danse de l'opéra. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que Marie Taglioni aimait pas trop ce ballet, puisque c'était une scène de bacchanal.
Oui.
De nonnes devenues folles qui sortaient de leur tombe et que Marie Taglioni passait à tort ou à raison pour un peu pudibonde.
Mm-hmm.
Et en fait, ça l'a gênée et elle l'a peu redansée après la création de Robert Ludlum. Mais c'est ce ballet qui a été le prototype du ballet romantique blanc, donc distinct de l'opéra et qui a ouvert la voie à la Sylphie de Gisèle.
D'accord. Alors, Romain Fès, on a évoqué en ouverture Auber, on vient d'écouter Robert le Diable, donc Meyerbeer, et il y a un troisième nom qui figure, je ne dis pas que le grand opéra se résume à un trio, mais il y a quand même Halévy aussi qui est évoqué dans l'exposition et dans le catalogue.
Tout à fait, c'est le troisième compère, auquel ce serait presque ajouté un quatrième, c'est Rossini, mm-hmm. dont Guillaume Tell a suivi d'un an la Muette de Portici, qui est un des grands chefs-d'œuvre de ce qu'on a appelé le grand opéra français. Rossini n'a pas voulu suivre cette orientation et s'est arrêté
son dernier opéra. Ouais.
Ça a été son dernier, ouais. son premier grand opéra et son dernier opéra.
Voilà, oui. Mais on peut dire, Romain Fès, que le Guillaume Tell de Rossini s'inscrit, puisque c'est un opéra en français, créé en France, s'inscrit dans la tradition du grand opéra.
Enfin, s'inscrit et fait partie des créateurs de cette tradition, puisque cette tradition
qui est naissante, on va dire,
n'avait qu'un an, si vous voulez, mais oui, c'est aussi une des œuvres fondatrices. Mmh. Alors, Rossini dans le grand opéra français a moins d'importance, si vous voulez, en quantité, puisque
il n'a laissé qu'un titre.
Les trois principaux, on va dire, pères fondateurs sont effectivement Auber, Meyerbeer et Halévy. Le courage voit, je sais rendre hommage d'un pénible esclavage, ma mort te bénira. Le devoir trop postère t'enchaîne sur mes pères, tu vivras près les mères et Dieu te bénira.
Véronique Jans, Étienne Dupuis, l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par Hervé Niquet. C'était un extrait de La Reine de Chypre de Jacques Fromental. Halévy, Romain Fès, ça va. Nous avons donc les trois. Hein, nous avons entendu du Meyerbeer, du Auber et du Halévy. Donc nous avons les trois principaux compositeurs qui ont contribué au développement donc de ce grand opéra qui fait l'objet donc d'une exposition, je le rappelle, qui se tient jusqu'au 2 février à la bibliothèque musée de l'Opéra de Paris au Palais Garnier. Il faut évoquer, je pense, une quatrième personne qui, lui, n'est pas compositeur, mais qui écrit, c'est Eugène Scribe.
Qu'on peut considérer comme l'un des fondateurs du Grand Opéra,
ouais. au même titre que les trois compositeurs qu'on a évoqués.
Que les trois compositeurs.
Ouais.
En fait, Eugène Scribe, qui était associé à deux comparses, qui étaient ses camarades de classe au lycée, qui s'appelle lycée Napoléon à l'époque, et qui s'appelle lycée Henri IV aujourd'hui.
Ouais.
Et les trois étaient de la même génération, ils se sont connus au lycée, donc Casimir et Germain de Lavigne, et Eugène Scribe. Et on va d'ailleurs présenter dans l'exposition un livret de Charles VI, donc, qui est de Lavigne, et en fait qui a noté par Eugène Scribe, l'a relu, et a fait de nombreuses corrections, et à côté on présente l'édition imprimée définitive de ce livret, où de Lavigne a pris en compte, en fait,
toutes
les corrections de Eugène Scribe. C'est
d'accord.
Ce Charles VI, donc, de Halévy est presque devenu un ouvrage collectif.
D'accord. Vous évoquiez, Romain Fès, qui est présenté dans cette exposition. Est-ce que l'exposition et le catalogue se recoupent, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont, en plus, on l'a dit qu'à la fin, donc, du catalogue était, il y avait la liste des différents objets présentés lors de l'exposition, mais les chapitres précédents, donc, vont au-delà de ce qu'on peut voir à l'exposition. Donc
absolument,
c'est bien d'avoir les deux, en fait.
En fait, ça
vient
compléter pour les gens qui désireraient
approfondir
leur connaissance du grand opéra français, certains de ses aspects. Il suit vraiment le parcours de l'exposition, mais avec naturellement des développements qu'on peut pas se permettre sur des panneaux didactiques, des cartels.
Donc plus qu'un souvenir de l'exposition, c'est vraiment un développement de l'exposition.
D'ailleurs, même dans le choix des illustrations, il y a bien sûr des pièces qui sont exposées, et il y a aussi d'autres pièces qui ne figurent pas dans l'exposition, mais qui nous estimions intéressantes pour illustrer le catalogue.
D'accord. Je vois dans Romain Fès, dans le catalogue, qui se découpe en de nombreux chapitres, il y a un chapitre qui est consacré à l'économie du grand opéra. Alors on imagine que, avec ce que nous avez dit, beaucoup de monde sur scène, des décors très importants, un sujet historique, donc on imagine vraiment un gros budget. Est-ce que c'est un genre qui a été viable économiquement, ou est-ce qu'il a perdu de l'argent très vite? Est-ce que il a disparu pour des raisons économiques? Racontez-nous ça, Romain.
Non, c'est un genre qui a été, c'est rare, mais rentable, même si son promoteur, qui était l'administrateur de l'opéra, le directeur de l'opéra, Louis-Désiré Veyron, à partir de 1831,
ouais,
et dont Robert le Diable a été le premier triomphe, même si la production avait déjà été négociée par son prédécesseur, et était un ancien médecin, donc homme d'affaires extrêmement avisé, qui maquillait un peu ses comptes pour faire apparaître des résultats moins bons que la réalité, pour essayer d'obtenir de la Chambre des députés le vote de subventions complémentaires.
De crédits supplémentaires, d'accord.
Sous Louis-Philippe, le statut de l'opéra a été modifié et est devenu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une délégation de service public. C'est-à-dire que les murs appartenaient à l'État et leur exploitation était concédée à un entrepreneur privé, qui devait se rémunérer sur les entrées et qui pouvait éventuellement bénéficier d'une subvention complémentaire si les recettes n'étaient pas tout à fait à la hauteur.
À la hauteur des espérances,
oui. En fait, les recettes de Veyron rencontré des succès commerciaux très importants. Il les a volontairement minimisés. D'ailleurs, à la Chambre des députés, on commençait à s'inquiéter un peu du fait que Veyron semblait pleurer misère alors que son train de vie prospérait. Et c'était quelqu'un qui était extrêmement dur en affaires. Et on voit avec Cicéry, qui était un des principaux décorateurs de l'opéra à l'époque, on va exposer d'ailleurs une facture, en fait, un mémoire pour les travaux de décoration que Cicéry a fait pour l'opéra, donc ça va se terminer par des procès successifs, trois procès successifs, pour que Cicéry essaye de récupérer son argent, parce que Veyron essayait de filouter, on va dire.
Yeah.
Roberto Alagna, Carita Matilla, Anna Efrati, l'orchestre de Paris, tous dirigés par Antonio Papano. C'était un extrait de Don Carlos avec un S de Verdi. Romain Fest, en quelques phrases, très brièvement, la fin du grand opéra. On associe donc ça à Don Carlos, 1867. Les raisons, en quelques mots.
Les raisons sont pas d'abord d'ordre économique, c'est plutôt une contestation chez les compositeurs qui veulent plus trop se conformer aux règles plus ou moins rigides du genre. On voit déjà ce qui se passe avec Tannhäuser de Wagner en 1861 pour la première parisienne, où il est contraint de mettre un ballet, il en veut plus trop, ça fait plus partie de... vraiment de l'œuvre. Même Don Carlos, donc de Verdi, en la version française, original en 5 actes, il y a un ballet au milieu qui s'appelle la Perle ou la Peregrina, mais qui est totalement déconnecté de l'action.
Ouais.
Verdi est moins vindicatif que Wagner, il se plie, mais on sent que ça correspond plus vraiment au désir des compositeurs majeurs.
D'accord, très bien. Merci beaucoup Romain Fest, et je renvoie nos auditeurs à la lecture de ce catalogue qui est vraiment très bien fait et complet. Donc cette exposition qui se tient jusqu'au 2 février à la bibliothèque musée de l'Opéra de Paris, consacrée donc au grand opéra. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Claire Levasseur. Attaché de production, Annick Aumier. Changement de genre la semaine prochaine, puisque je serai en compagnie de Jean-Pierre Jackson et nous parlerons de Keith Jarrett. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.